الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة أول أيام ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نجتمع للدرس السابع لدراسة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. Nous sommes le 19 novembre 2017 et l'on se réunit pour le septième cours de l'étude de Al-Aqidatul Wasitiyya. Qu'Allah fasse miséricorde et pitié de son auteur, Rahimahullah, ainsi que les savants qui ont commenté ce livre, à l'instar de Cheikh Muhammad Aman Al-Jami et le Cheikh Salih Al-Fawzan. Hafidhallahu Al-Fawzan wa Rahim Al-Jami, Rahmatan Wasi'a. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière assise, après avoir écouté et lu la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il décrivait cette voie empruntée par les gens de la sunna dans la croyance dans les noms et attributs qui consiste à décrire Allah comme lui-même s'est décrit par la négation suivie de l'affirmation. L'auteur nous dit « فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ » C'est cela le droit chemin. Et nous avons vu que le droit chemin menant à Allah, menant à la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est unique. Il n'y en a qu'un. Alors que les voies menant à l'égarement sont diverses et variées. Elles sont nombreuses. Et celui qui veut accéder au paradis, gagner la satisfaction d'Allah, azza wa jal, doit s'attacher à la seule et unique voie. La voix des salafs, la voix des sahaba, radiyallahu anhum, la voix de l'islam originel, tel qu'il était lors de la venue de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Non pas les voix inventées et innovées par des groupes, des guides, des hommes, ou des personnes tout simplement, qui ont fait dévier les gens du chemin d'Allah. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ » Et voici mon chemin dans toute sa rectitude, le chemin droit. Suivez-le donc. « وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ » Et ne suivez pas les autres voies. « فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Elles vous diviseront, elles vous éloigneront de sa voie. Donc on voit encore la mention de la voix d'Allah et des voix qui ne sont pas les voix d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit « صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ » C'est le chemin suivi par ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Voici la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour cette parole, il s'est basé sur un verset du Coran, où Allah azza wa jalla a dit « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ » Et quiconque obéit à Allah et son messager, « فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ Voici ceux qui rejoindront ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi, puis Allah azza wa jalla a cité ces quatre catégories de personnes. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah, a dit أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. Il nous dit que cette voie qui est la voie droite, le droit chemin à suivre, est celle des messagers dans la croyance et dans autre que la croyance aussi. Cette voie empruntée par les gens de la Sunna et du groupe qui ont reçu de manière totale les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand bienfait d'Allah, ya Abdallah, serviteur d'Allah, d'avoir été guidé au tawhid sahih, à l'unicité d'Allah azza wa jal, d'avoir été guidé à la croyance saine dans ce monde où les croyances erronées, égarées, ont mangé et détruit les cœurs des enfants d'Adam. Aujourd'hui, en cette époque que nous vivons, vous pensez que c'est la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui règne dans le monde islamique? Non, c'est la croyance de l'Asha'ira. C'est la croyance de ceux qui disent qu'il est interdit de dire qu'Allah est en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est la croyance de ceux qui disent qu'Allah ne descend pas. C'est la croyance de ceux qui disent qu'Allah n'a pas de visage. C'est la croyance de ceux qui ont fait primer la raison sur les textes, sur la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque tu te rends compte qu'Allah azza wa jalla t'a facilité l'accès à cette voie, tu te dois d'être du nombre des reconnaissants envers lui. Car comme le dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, à cette croyance se rattache la joie éternelle, la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est à cette croyance qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne d'adhérer. On doit l'invoquer pour qu'il nous y guide, subhanahu wa ta'ala. Voici donc les quatre catégories de personnes. An-Nabiyyun, les prophètes. Nous en avions vu la définition. Les prophètes sont des hommes envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour prêcher et faire revivre le message des messagers qui les ont précédés. As-Siddiqun, et Siddiq, c'est le pluriel de, Siddiqun est le pluriel de Siddiq. As-Siddiq, huwa al-mubaligh fi as-sidqi wa at-tasdiq. C'est celui qui atteint un très haut niveau de véracité, et c'est celui qui atteint un très haut niveau de croyance en la véracité. Prenons l'exemple de celui que l'on appelle Siddiq ou hadhihi al-umma, le Siddiq par excellence de cette communauté. Qui est-il? Abu Bakr, qu'Allah l'agré. Le meilleur homme que la terre ait connu après les prophètes, meilleur que les compagnons des autres prophètes. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala découpe ces langues qui disent de lui qu'il a apostasié et qu'il est un hypocrite. Les langues des chiites, rawafid, qu'Allah azza wa jal préserve de leur mal. Voici le sens du mot as-siddiq, mais c'est aussi al-mubaligh fi l'inqiyad lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'a kamal al-ikhlas lillah. Celui qui a atteint un très haut niveau de soumission au messager alayhi salatu wa salam, tout en ayant la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ash-shuhada was-salihun, les martyrs et les pieux. Ce sont ces quatre catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans ce verset et qui ont eu la croyance correcte. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan a dit: As-siratu taratan yudafu ila Allah ta'ala. Parfois, le terme as-sirat, la voie, le chemin, est attribué à Allah, ou alors est annexé à Allah. Siratullah, la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parfois, ce terme est annexé aux serviteurs d'Allah, comme ici. Siratul ladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Écoutez bien ce que nous dit le Cheikh Saleh al-Fawzan. Il y a ici un... Allah attire notre attention sur les compagnons que tu as dans cette voie que tu suis. Et ça, c'est pour te consoler. Ash-Shaykh Saleh al-Fawzan te dit: ne sois pas triste. Ma'aka al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma'aka al-Sahaba. Tu as avec toi le messager dans cette voie, alayhi salatu wa sallam. tu as avec toi les compagnons dans cette voie bénie. C'est eux qui sont avec toi, même si en apparence tu es seul, parce qu'on te rejette. Non, parce qu'on dit que tu es fou, tu amènes une religion nouvelle, tu contredis les ancêtres, les coutumes, les habitudes. Qu'est-ce que ça peut te faire à partir du moment où tu es sûr et convaincu que tu es dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, nous allons passer dans une série de versets cités par l'auteur, rahimahullah ta'ala, montrant plusieurs des attributs d'Allah. Donc, ici, vous allez rentrer dans le chapitre sur les attributs d'Allah, azza wa jal, de manière détaillée. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Premièrement, l'auteur rahimahullah a dit: وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Entre dans tout ce qui vient d'être dit, donc la croyance des gens de la sunna, son tahrif, ta'til, takif, tamthil, al-ithbat wa al-nafi, l'affirmation, négation, entre dans tout ce qui vient d'être dit, ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit dans la sourate appelée Suratul Ikhlas, celle qui équivaut à un tiers du Coran. Allahu Akbar. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Combien de versets? 4 versets. Et pourtant, cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui a détaillé cette réponse. Pourquoi? Mais tout d'abord, ici l'auteur, rahimahullah, nous montre des exemples de son livre. Et plus loin, il va nous montrer d'autres exemples puisés de la sunna authentique, citant des noms et attributs d'Allah, azza wa jal. Ici, c'est la sourate Al-Ikhlas qui est citée. Sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Ses mérites sont énormes chez Allah. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée Sourate Al-Ikhlas? Cela vient du verbe akhlasa. Akhlasa a plusieurs sens dans la langue arabe. Et parmi les sens de akhlasa, il y a al-istifa, ikhtara, wastafa, le fait d'élire ou de choisir. Cette sourate a été appelée Suratul Ikhlas parce qu'elle a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer la perfection de ses attributs. Ainsi, Suratul Ikhlas, nous pouvons dire d'elle, c'est le passage du Coran. Il y en a d'autres aussi, mais la concernant, c'est le passage du Coran choisi par Allah pour se présenter à nous par ses attributs magnifiques, par ses attributs parfaits et majestueux, subhanahu wa ta'ala. Également, لِأَنَّهَا تُخَلِّصُ مِنَ الشِّرْكِ. Ça peut aussi venir du verbe خَلَّصَ qui signifie débarrasser. Parce que cette sourate te débarrasse du polythéisme. C'est pour cette raison que notre prophète alayhi salatu wassalam a orienté celui qui est dérangé par les wasawis de shaitan fil iman, les insufflations du diable dans sa foi, qui essaie de lui faire le doute quant à Allah azza wa jal. La sunna à ce moment-là, c'est de réciter Sourate Al-Ikhlas. لِأَنَّهَا تُخَلِّصُكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. Car elle te débarrasse du polythéisme et de la mécréance. Cette sourate, en termes de récompense et en termes de son contenu, équivaut à un tiers du Coran. Pour quelle raison? لِأَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ ثَلَاثَ. Car les trois grands sujets principaux du Coran, car les grands sujets principaux du Coran sont au nombre de trois. Et c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a dit, et ici le Cheikh Salih al-Fawzan le cite. Premièrement, at-tawhid, le premier grand sujet du Coran, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon claire. وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété, a prescrit, n'adorez nul autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets qui sont explicites et clairs. Le deuxième grand sujet du Coran, Al-Qasas, les histoires des nations passées, ce qu'il est advenu des opposants aux messagers et ce qui a été gagné par les soumis aux messagers, comme l'histoire de Pharaon et son peuple avec Moussa alayhi salam, ce qu'Allah a fait de Pharaon et son armée et ce qu'Allah a donné à Moussa et ses suiveurs. Et le troisième grand sujet, Al-Ahkam, les règles religieuses, c'est-à-dire Al-Halal ou Al-Haram, le licite et l'illicite, les ordres et les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on retrouve dans Surat Al-Ikhlas? On retrouve de manière globale le résumé de ce grand sujet principal qui est justement At-Tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va le détailler dans le tafsir de la sourate, بإذن الله تبارك وتعالى. هذه السورة أيضا تسمى صفة الرحمن أو صفة الله. Parmi les surnoms de cette sourate, il y a justement صفة الله, l'attribut d'Allah. والمراد هنا صفات الله لأنه مفرد, والمفرد المضاف يفيد العموم. فعندما نقول صفة الله معناه صفات الله سبحانه وتعالى. Et pour vous résumer, c'est-à-dire les attributs d'Allah سبحانه وتعالى. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée comme cela? Car dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, qu'Allah l'agré, il nous rapporte, et nous l'est rapporté par l'imam al-Bukhari رحمه الله, que le prophète عليه الصلاة والسلام a reçu la venue d'un homme qui lui a dit: ô messager d'Allah, notre imam qui dirige notre prière, récite à chaque fois la sourate, sourate al-Ikhlas, comme si cela lui avait paru peu, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha yara dhalika qalilan, comme si ce personnage, cela lui paraissait peu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut à un tiers du Coran. Et dans l'autre, le prophète alayhi salatu wassalam dit: interrogez-le. Salou, interrogez-le. Pour quelle raison est-ce qu'il récite constamment cette sourate? Ils sont allés le voir et l'ont interrogé. Il leur a dit: لِأَنَّ فِيهَا صِفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ الرَّحْمَنِ, car elle contient les attributs du tout miséricordieux. Et moi, j'aime le tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: allez le voir et informez-le qu'Allah l'aime comme il a aimé ses attributs ou cette sourate. C'est de là que l'on voit que le mot صِفَة, Sifatullah, les attributs d'Allah, vient de la sunna et n'a pas été inventé. Et à ce point-là, à ce passage, le noble Cheikh Mohammed Aman, l'immense savant de la sunna, rahimahullah, wa nasallallahu an yuwassi'a qabrah wa yunawwira wa yu'liya darajata fil jannah, a dit: hadha raddun 'ala al-imam ibn Hazm rahimahullah. Ceci est une réponse, réfutation à l'imam Mohammed ibn Hazm, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Pourquoi? Parce que d'après l'imam ibn Hazm rahimahullah ta'ala, le terme sifa n'a pas de source dans le Coran et la Sunna. Et comme a dit le noble Cheikh Mohamed Aman, lam yaqif ala hadha al-hadith. L'imam Ibn Hazm rahimahullah n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance de ce récit. Wa li hadha huwa ma'dhur. C'est pour cette raison qu'il est excusé. Wal ulama al-ma'rufun bil bahth 'an al-haqq ma'dhurun in akhta'u. Et les savants connus pour leur recherche fine et précise de la vérité sont excusés lorsqu'ils ne l'atteignent pas, car ils ont fait ce qui est en leur, dans leur capacité. D'où l'importance du respect des ulama, du respect des savants de la sunna. Et il y a ici une différence entre le savant qui fait un effort et qui n'arrive pas à trouver, qui se trompe, tout simplement, et quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, mais plutôt qui fait tout pour falsifier les textes, pour justifier son égarement. Puis, on dit de lui qu'il est égal dans l'excuse qu'on doit lui donner au savant connu pour suivre la sunna et s'efforcer de s'accrocher à la vérité lorsqu'elle lui apparaît clairement. On dit de deux qu'ils sont pareils. C'est une ruse. Et cette ruse est fausse et caduque. Et on ne doit pas être trompé par cela. Il y a une différence entre un Ash'ari et quelqu'un qui a commis quelques erreurs où il a été en accord avec l'Ash'ari. Comme a dit le Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah, comme l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ils sont connus, ce sont des savants du hadith, et pourtant, ils ont eu quelques accords avec l'Ash'ari dans des points de la croyance. Et ce sont des erreurs claires et évidentes qu'il faut refuser, mais ces savants recherchent et ont été connus pour rechercher la vérité, comme a dit le Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah. Ainsi, on ne doit pas dire d'eux ce que l'on dit de ceux qui ne sont pas connus pour le suivi de la sunna, pour la recherche de la sunna. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ainsi, l'on voit que le terme sifa fait partie des mots relatés par les textes du Coran et de la sunna. Et nous avons compris pourquoi est-ce qu'elle a eu dans sa valeur un tiers du Coran. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans cette sourate? Premièrement, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. قُلْ signifie « dit ». Chaque fois que tu liras dans le Coran « قُلْ », sache qu'il s'agit d'un ordre donné par Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, de transmettre. Certains ont dit que « قُلْ », on n'a plus besoin de le dire, on doit l'enlever du Coran. Pourquoi ? Parce que le prophète est mort, alayhi salatu wa sallam. Et lui a dit, il a transmis. Mais c'est parce que une chose immense leur a échappé. C'est que Qul te montre que dans la religion, on ne dit que ce qu'Allah nous a dit. Donc on doit le laisser. Déjà parce que c'est un verset du Coran, c'est une parole du Coran, on ne l'enlève pas. Et parce qu'elle a toute son importance, même après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam. D'autre part, le Cheikh Saleh al-Fawzan nous dit, في هذا دليل على أن القرآن كلام الله. Il y a ici la preuve que le Coran est la parole d'Allah. سبحانه وتعالى. Pourquoi? إذا كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. Car s'il était la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, comme on essaie de le dire, ou autre que lui, pourquoi est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام va dire قل? Dit, il va s'ordonner à lui-même de dire. C'est bien qu'il a reçu l'ordre de dire. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Il est Allah. أَحَدْ. أَحَدْ, c'est l'unique. وَهِيَ صِفَةُ الْأَحَدِيَّةِ. L'attribut tiré de ce nom est l'attribut appelé الْأَحَدِيَّةِ. On peut peut-être traduire par l'unicité. D'ailleurs, il est unique. Ay wahidun la nadira wa la wazira wa la mathila wa la sharik. Il n'a pas de soutien, il n'a pas d'assimilé ou de similaire, il n'a pas d'associé. Huwa ahad fi dhati. Il est unique dans son essence, en lui-même. Ahadun fi asma'ihi wa sifati. Dans ses noms, dans ses attributs. Ahadun fi af'ali. Il est unique dans ses actions. Fi awamiri, fi nawahi. Dans ses ordres, dans ses interdits. Walihada tukhallisuka min ash-shirk. C'est pour cela que cette sourate te débarrasse du shirk. Car si tu la comprends, il ne reste plus un atome de shirk dans ton cœur. Allahu samad. Allahu samad. Allah Azza wa Jal se définit comme étant as-samad. As-samad, à la base, dans le sens linguistique, as-samad, c'est le maître. Pour cette raison, lorsque il y avait des différends dans les tribus arabes autrefois, que faisaient les membres de cette tribu? Yatawajjahuna ila samadihim, a ila sayyidihim. Ils se dirigeaient vers leur samad, c'est-à-dire vers leur maître, vers leur chef de tribu. C'est-à-dire vers celui à qui l'on revient constamment lors de divergences, lors de différends. Ça, c'est le sens linguistique. Lorsque l'on parle d'Allah Azza wa Jal, As-Samadu huwa Sayyidu alladhi kamula fi su'dadi wa sharafi wa 'azamati wa fihi jami'u sifati al-kamal wa alladhi tasmudu ilayhi al-khala'iq wa taqsiduhu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha. C'est le maître absolu par excellence, celui à l'immensité inégalée, celui décrit par les attributs de perfection et vers lequel reviennent toutes ces créatures lors de leurs besoins. Donc, le sens religieux rejoint un peu le sens linguistique, si ce n'est qu'Allah a la perfection ici. Fi sifati samadiyya, dans cet attribut appelé l'attribut as-samadiyya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas enfanté, il ne l'a pas été non plus. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous remarquez dans les premiers versets? Ithbat, affirmation. Wa huna nafi. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Négation. Ibn Taymiyyah rahimallah veut te montrer que lorsqu'Allah va se décrire, tu vas remarquer des affirmations et des négations. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et ne l'a pas été. Subhanahu wa ta'ala. Ay laysa lahu waladun wa la walid. Wa fihi ar-raddu 'ala an-nasara wa mushriki al-arab alladhina nasabu lillahi al-walad. Ta'ala Allahu 'amma yaqulun. Allah n'a pas d'enfant et il n'est pas père. A'yadan billah. Et ceci est une réponse au dogme chrétien, disant ou croyant que le Créateur a un fils. C'est faux. Ibn al-Qayyim rahimahullah radda alayhim fi qasida azima. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a réfuté cette croyance par des vers de poésie. Allahu Akbar. Lorsqu'il leur dit dans ses vers de poésie, si vous dites que Isa est Dieu, Isa est Allah, vous dites que Allah a été dans le ventre d'une femme, à côté du sang, à côté d'eux, et si vous dites cela, qu'il est Allah, avant qu'il ne vienne, qui l'a créé? En tout cas, là, je vous dis vraiment brièvement, mais si vous pouvez retrouver les vers de Ibn al-Qayyim, les vers sont traduits en français. Les vers de poésie de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vous les trouverez, inshallah ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il y a aussi une réponse aux associateurs qui ont dit d'Allah Azza wa Jal, notamment que les anges sont les filles d'Allah. Wal'iyadu billah. Et d'autres choses encore. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ أَحَدٍ. Et il n'a nul égal. Il n'a nul égal dans tout ce que l'on vient de dire dans ses noms, dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans Surat al-Ikhlas la description d'Allah Azza wa Jal par l'affirmation suivie de la négation. N'oubliez pas cette règle de la croyance des gens de la Sunna. La négation n'est pas une simple négation, mais elle a pour but de montrer la perfection de son contraire. Car avoir un enfant n'est pas une perfection en réalité, dans le sens où, pourquoi l'humain veut avoir un enfant? Parce qu'il a besoin de se réjouir. Allah n'a pas besoin de cela. Parce qu'il a besoin d'un accompagnateur dans ses vieux jours. Allah n'a pas besoin de cela. Il recherche une compagnie. Allah n'a pas besoin de cela. Quand Allah Azza wa Jal a nié cela, c'est pour montrer la perfection du fait qu'il n'a aucun besoin. Kamal Rina, subhanahu wa ta'ala, la perfection de sa richesse, et qu'il se passe des mondes. Wa shahidu min hadhihi surah. Les points à retenir de cette surah, ou le passage nous concernant, أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. Le fait que cette sourate a uni l'affirmation et la négation dans les passages que l'on vient de voir. Puis l'auteur rahimahullah continue et dit: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. Il s'étale maintenant dans les versets citant les attributs d'Allah Azza wa Jal. De même, ce par quoi Allah s'est décrit dans le plus grand verset de son livre. Ayatul Kursi, c'est le verset le plus important du livre d'Allah. Le verset 256, si je... 255, barakallahu fik, de la surah Al-Baqarah. Qui est-ce qui ne connaît pas Ayatul Kursi? Lève la main, il n'est pas timide. Tayyib, vous devez l'apprendre. Et je sais très bien que d'autres frères n'ont pas levé la main, mais vous devez l'apprendre. Chers frères, apprenez Ayat al-Kursi, subhanallah, le meilleur verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui va apprendre Ayat al-Kursi? Qui est-ce qui va connaître Ayat al-Kursi? Levez tous vos mains. Vous devez tous connaître Ayat al-Kursi. Tu dois sentir un manque duquel tu ne peux pas te passer si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, qui est le meilleur verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la meilleure description faite d'Allah, azza wa jal. Comment tu peux ignorer cela et connaître d'autres choses qui n'ont aucune importance? Subhanallah. Un verset du livre d'Allah. Est-ce que tu es incapable de l'apprendre? Non. الشيطان هو الذي يلعب بك. C'est le diable qui joue avec toi. فلا تغتر به وبضعفه فإن كيده كان ضعيفا. Ne te fais pas tromper par le شيطان. فإنها أعظم آية في كتاب الله. C'est le plus grand des versets du livre d'Allah. عز وجل. Lorsque nous disons le plus grand, on ne parle pas en termes de nombre de mots. Fil mabna, la fil ma'na, dans son sens. Mad dalilu ala dhalik. Quelle est la preuve de cela? Rapporté par l'imam muslim rahimahullah, d'après le noble compagnon Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala an. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Aba al-Munzir, أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ Il l'a appelé par sa kunya, son surnom. Ô Abu al-Munzir, d'après toi, connais-tu le meilleur, le plus immense des versets du livre d'Allah? Abu al-Munzir, طالب علم, علام, له أدب العلماء. Abu al-Munzir est un compagnon, طلاب النبي صلى الله عليه وسلم, les étudiants de la science du prophète alayhi salat wa salam, il a l'adab avec son enseignant. Faqal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Il lui a dit, Allah et son messager sont plus savants. il a attendu peut-être que le prophète alayhi salatu wasalam va lui donner l'autorisation de répondre. Le prophète sallallahu alayhi wasalam lui a dit: Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Sais-tu quel est le plus grand verset du livre d'Allah? Al-Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit: Huna adraka annahu idhnun lil jawab. Là, il a compris que c'est l'autorisation qui lui est donnée de répondre. Fa'ajab. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-moi réfléchir. Amhilni ya Nabi Allah. Laisse-moi le temps. Attends, je dois retrouver le mushaf pour lire. Là. Combien de versets il y a dans le Coran? Plus de 6000 versets dans les 114 surahs du Coran. Subhanallah. Il n'a pas réfléchi. Immédiatement, il a dit Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme dit Abu al-Mundhir radiyallahu an, fadaraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala sadri. Le prophète alayhi salatu wa salam m'a frappé la poitrine en guise de félicitation de cette chose énorme que tu viens de dire. Et après, tu ne vas pas apprendre Ayatul Kursi, mon frère. Il lui a frappé la poitrine et il lui a dit لِيَهْنِكَ الْعِلْمِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ. Félicitations pour cette science, ô Abu al-Mundhir. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah wa jazahu khayra a dit, il n'a même pas réfléchi. Il a eu l'autorisation, il a répondu sans chercher, sans demander un délai. Pourquoi? Car les sahaba radiyallahu anhum ont compris depuis le début que le tawhid est le plus important sujet du Coran, que l'attribut, la description d'Allah azza wa jal est la science la plus immense, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ashrafu al-ulum 'ala al-itlaq, al-'ilm bil-asma' wa sifat, la plus grande de toutes les sciences sans le moindre doute. C'est la science des noms et des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Puis, nous trouvons dans cette époque des gens n'ayant pas étudié, ou alors mal assimilé les questions relatives à l'aqidah et au tawhid, dire que ce n'est pas le plus important, tawhid al-asma'i wa sifat, mais il faut se concentrer sur l'uluhiyya. Hada kalamun batil. La yaquluhu illa jahil. Cette parole est fausse. Elle n'est dite que par quelqu'un qui n'a pas la précision dans la science. Wa kayfa tuwahhidu Allah 'azza wa jalla idha lam yakun bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi tabaraka wa ta'ala? Et comment vas-tu adorer Allah seul et sans associer si tu ne connais pas ses noms, ses attributs, sa grandeur, sa splendeur, sa majestuosité? Subhanahu wa ta'ala. C'est faux. Ifhamu hadha barakallahu fikum. Comprenez cela, barakallahu fikum. Donc c'est comme cela qu'étaient étudiés les compagnons. Il a compris que le plus important, c'est la description d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une science immense. Ainsi, d'après ce hadith, on voit clairement que c'est le plus important des versets du Coran. Alors consacre de ton temps et apprends-le, car elle a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite. Ainsi, on voit que ce verset aussi contient une description immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « A'zami ayatin fi kitabi » le plus grand verset de son livre. Le terme en arabe est « ayatun ». « Ayatun » à la base, c'est un terme qui désigne « al-alama » l'indice, ou alors le signe. « Wa ayatullahi azza wa jal » kauniyatun wa shar'iyya. Et les signes d'Allah Azza wa Jal sont en deux catégories. Les signes universels, c'est la création, ce que l'on voit dans la nature, l'homme, l'animal, les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles servent à méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayatun shar'iyya. Et les signes en relation avec sa législation, c'est-à-dire ici les versets du Coran. Pourquoi est-ce que les versets du Coran ont été appelés « ayah » en arabe, qui à la base veut dire le signe, لأنها آية تدل على الله تبارك وتعالى. Car les versets du Coran sont des signes nous montrant qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Car lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis les versets, et tu vois la perfection du contenu du Coran, des versets, des chapitres, de l'ordre, des sens, cela est un signe montrant la sagesse et la science parfaite de celui duquel viennent ces versets, qui est Allah. C'est pour cette raison que les versets ont été appelés ayatun. Est-ce que tu le savais? Alhamdulillah. Qu'Allah nous utilise pour transmettre le khair aux gens. Tayyib. On l'a appelé ayatul kursi. Abul Mundhir l'a dit. Donc cette appellation de ce verset, tasmiyatun shar'iyya, est religieuse. Elle a ses preuves. Pourquoi ayatul kursi? Parce qu'elle contient la mention de Al-Kursi, dont on va parler lors de l'explication de ce verset. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et le hadith, il a été cité d'ailleurs par le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Allah Azza wa Jal nous dit Allahu la ilaha illahu. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal se nomme Allah. C'est Allah qui se nomme subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Hada tafsir li lafz al-jalala. La ilaha illahu est l'explication du nom Allah. Car en réalité, le nom Allah signifie le seul à mériter l'adoration. De manière brève. La ilaha illahu ay la ma'bouda bihaqqin illahu. C'est-à-dire, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration de tout autre qu'Allah est caduque et nulle. Tout ce qui va suivre va être une série de preuves concernant cette affirmation. Laquelle? Allah est le seul à mériter l'adoration. كَأَنَّهُ قِلْ مَدْ دَلِلْ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الجواب اسمع ما يلي. Comme s'il fut dit, quelle est la preuve que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration? La réponse, écoute ce qui va suivre. Tout ce qui va suivre est la description de celui qui est le seul à mériter l'adoration. Premièrement, الْحَيُّ الْقَيُّمُ subhanahu wa ta'ala, deux des noms d'Allah. Al-Hayy, le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit Al-Da'imu al-Baqi Al-Ladhi lahu kamalu al-Hayati Wal-Ladhi la sabila lil-Fana'i ilay. Al-Hayy, traduit approximativement par le vivant, est celui qui subsistera, qui restera éternellement. Subhanahu wa ta'ala, qui a les attributs de la vie parfaits. Les attributs de la vie parfaits et qui jamais ne sera anéanti. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a la vie parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire la vie parfaite? هذه الحياة حياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولن يلحقها فناء وَلَا يَعْتَرِيهَا نَقْص. Elle n'a jamais été devancée par le néant. Elle ne sera jamais rattrapée par l'anéantissement. Et elle n'est en aucun cas sujet à toute forme d'imperfection. هَذِهِ حَيَاتُ الْحَيِّ subhanahu wa ta'ala. C'est la vie parfaite d'Allah. كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَيًّا سبق بعدم ويلحق بفناء أو أن يكون جمادا لا حياة له. Tout autre qu'Allah Azza wa Jal est soit un être vivant qui n'existait pas, fut un temps, et qui sera voué à l'anéantissement, ou un objet inerte, une créature inerte qui n'a pas la vie. la pierre, le fer et autres. Alors qu'Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, a la vie parfaite. Et toi, tu es vivant. Rappelez-vous, dans un cours, on a dit que lorsque l'on parle de façon absolue, Allah Azza wa Jal yashtariku fi sifatihi ma'a sifat ma'a sifat li khalqihi indama takun ala sabil al-itlaq. Ilm, ilm. Lakin indama tudaf, ilmullah wa ilmul ibad, hadha ilmuh wa hadha ilmuh. Lahu khasaisu wa hadha khasaisu. Al-la'iqatubi. Nous avons vu que on peut dire qu'Allah Azza wa Jalla a un attribut, et de cet attribut, on peut dire la créature-là, lorsque l'on parle de façon absolue, la science par exemple. On a le droit de dire que quelqu'un a de la science? Bien sûr. On a le droit de dire, on doit dire qu'Allah a de la science? Oui. Mais par contre, quand on annexe la science à son détenteur, elle devient particulière à ce détenteur. Lorsqu'on dit la science d'Allah, on parle de la science parfaite. Lorsqu'on dit la science de la créature, on parle de la science imparfaite. Pareil pour la vie. Aujourd'hui, tu es devant moi, je suis devant toi, nous sommes vivants. Mais dans cette vie, on se fatigue, on est triste, on est peiné, on oublie, on a des difficultés, on a des soucis, on tombe malade, on a faim, on a soif, on a froid. Et là, vous avez froid. Mais c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et je sais que certains, par la cause du froid ou parce que l'endroit est loin, ils ne viennent peut-être pas. Quelle erreur, subhanallah. Tu te gâches des meilleures assises de ta vie parce que c'est loin ou parce qu'il fait froid. Ya akhi, va loin pour accéder au paradis. Affronte le froid pour accéder au paradis. D'Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons à notre sujet. La vie d'Allah est parfaite. Le deuxième nom, Al-Qayyum. Al-Qayyum, on ne peut pas le traduire en français. C'est pour cette raison que on a besoin d'une phrase pour le traduire approximativement. Celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Car c'est dans la langue française, ça n'existe pas, Qayyum. C'est normal. C'est chez Allah, Azza wa Jal. C'est l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أي القائم بنفسه المقيم لغيره فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. Il est riche, immensément riche. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune aide, d'aucun soutien. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la traduction du verset, je ne veux pas de subsistance. Je ne veux pas de non plus qu'ils me nourrissent. Ce n'est pas pour ça qu'Allah t'a créé faible créature, miskine. Il t'a créé pour que tu l'adores et tu te soumettes à lui. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de te créer. Mais il est sage. Il t'a créé pour une sagesse parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas besoin de ses créatures et elles ont toutes besoin de lui. Directement ou indirectement. Directement lorsque nous parlons des croyants qui savent lever leurs mains pour demander à Allah et lui réclamer, indirectement, lorsque nous parlons, de manière générale, de tout le monde, même s'ils ne sont pas croyants, ils ont besoin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu es malade, tu as besoin de te soigner, d'où vient le remède? Il a été pris de plantes, qui les a créées? Allah, Azza wa Jal. Tu es affamé, tu as besoin de manger, et toi tu ne crois pas en Allah. Mais cette nourriture que tu manges, qui l'a créée? C'est Allah. Indirectement, tu es servant et dans le besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Salih al-Fawzan a dit, « Wa huwa l'ismu l'a'azam, alladhi idha du'iya Allahu bihi ajab. » Et il s'agit, et ces deux noms-là, en réalité, sont le nom immense d'Allah par lequel il répond quand il est invoqué. Il donne quand il est sollicité, subhanahu wa ta'ala. Et là, الفائدة العظيمة آتية. La grande فائدة arrive. الحي لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. Avant de lire cette parole, il nous faut montrer un point important dans la croyance des noms et attributs d'Allah, particulièrement les attributs d'Allah. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, chez les savants de la Sunna, les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se divisent en deux d'un point de vue. Premièrement, as-sifatu dhatiyya, les attributs d'essence. Deuxièmement, as-sifatu al-fi'liyya, les attributs d'action. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? As-sifatu al-dhatiyya la tanfakku an dhati Allahi abada, fahuwa yattasifu biha subhanahu wa ta'ala wa hiya qadimatun qidama dhat. Ces attributs, les premiers, les attributs d'essence, sont en relation directe avec l'essence même d'Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire avec Allah lui-même. Tant qu'Allah est là, ses attributs sont là. Tant qu'Allah existe, ses attributs existent, c'est-à-dire que ses attributs ont toujours existé. Allah Azza wa Jalla a toujours été décrit par ses attributs. Il le sera toujours, sans début ni fin, car ses attributs ont un lien direct avec Allah lui-même, avec l'essence d'Allah. Est-ce que je me fais comprendre, mes frères? Ça, ce sont les attributs d'essence. Quelques exemples d'attributs d'essence. Al-Hayah, la vie. Al-Ilm, la science. Al-Qudra, la puissance, avec Al-Izza. Al-Azama, l'immensité. Al-Kibriya, la grandeur. As-Sam'u wal-Basar, l'ouïe, la vue. Tous ces attributs, nous disons qu'ils sont des attributs d'essence. Sifatun dhatiyya. En arabe, le terme dhat signifie l'essence, c'est-à-dire Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et le mot dhat est venu dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'histoire de Al-Khubayb, radiyallahu anhu, le compagnon qui a été châtié, et on a dit de lui qu'il a été châtié fi dhatillah. Hada dalil ala hadhihi al-kalima fi sunnah. On a ensuite as-sifatul fi'liya ou sifatul af'al. Sifatul af'al, les attributs d'action. Hiya sifatun muta'alliqatun bimashi'atillah subhanahu wa ta'ala wa hiya mutajaddida tatajaddad yujaddiduha rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ce sont des attributs qui se renouvellent en fonction de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces attributs ont un lien avec la volonté d'Allah. Quand Allah le veut, il les fait, subhanahu wa ta'ala. Un exemple. Al-Razq, donner la subsistance. Vous avez dit, je n'ai pas dit Al-Rizq, car il y a une différence entre Al-Rizq et Al-Razq. Quand on dit Al-Rizq, Al-Rizq, c'est la subsistance que tu as, qu'Allah t'a donnée. Ce qamis que je porte, Rizqi, est ma subsistance. Ce verre d'eau que j'ai bu, Rizqi, est ma subsistance. L'attribut d'Allah qui m'a donné cette subsistance, Al-Razq. Donc, la subsistance est le rizq. L'attribut d'Allah de donner la subsistance, c'est Al-Razq. Cet attribut, Al-Razq, donner la subsistance, a un lien avec la volonté d'Allah. Pour cette raison, ne vois-tu pas dans les versets, Yarzuqu man yasha. Il octroie la subsistance à qui il veut. Alaykum salam. Il donne la subsistance à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et d'autres attributs encore, comme An-Nuzul, quand il descend au dernier tiers de la nuit pour répondre à l'invocation de ceux qui l'invoquent. Yanzilu matasha, il descend quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Comme al-istiwa, al-istiwa, le fait de s'élever au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala, il l'a fait quand il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des attributs par lesquels Allah Azza wa Jal se décrit quand il le veut. D'autres qui sont en rapport avec son essence. Les attributs qui sont en rapport avec son essence, on ne peut pas dire de ces attributs. Allah Azza wa Jal les fait quand il veut. Est-ce qu'on peut dire d'Allah Azza wa Jal, il est immense quand il veut, il est vivant quand il veut, il est savant quand il veut? Non. لأن هذه الصفات قديمة قدم الذات. Car ces attributs sont aussi anciens que son essence. Et lorsque je dis ancien, ça ne veut pas dire l'ancienneté qui a un début. Quand on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est l'éternité qui n'a pas de début. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est voulu. Par contre, quand je parle de donner la subsistance, est-ce que je peux dire qu'Allah Azza wa Jal donne la subsistance quand il veut ? Oui. Si je peux dire ça d'un attribut, cet attribut est un attribut d'action. Si je ne peux pas dire d'un attribut, d'un acte qu'Allah fait, qu'il le fait quand il veut parce qu'il est constamment décrit, alors c'est un attribut d'essence. Est-ce que vous avez compris cela ? Il y a quelque chose d'autre. Parmi les attributs d'Allah, il y a des attributs qui ont ces deux choses. بِعْتِبَارْ هِيَ صِفَاتُ ذَاتْ وَبِعْتِبَارْ هِيَ صِفَاتُ فِعْلْ. Il y a des attributs d'Allah Azza wa Jal qui, d'un point de vue, sont des attributs d'essence et d'un autre point de vue, sont des attributs d'action. Par exemple, sifatul kalam, l'attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bi'tibar ittisafihi bil kalam, fallahu azza wa jal yattasifu bihi wa hadhihi sifa qadima qidama dhat. Si on prend le point de vue de l'attribut en lui-même, nous disons que l'attribut de la parole en lui-même est un attribut d'essence. Car Allah Azza wa Jal a toujours été décrit par cet attribut, qui est l'attribut de la parole. Walakin, إذا نظرنا إلى اعتبار أفراد الكلام وأحاد الكلام والكلمات التي يقولها هنا نقول صفة فعلية. Mais lorsque l'on regarde, non pas l'attribut de façon absolue, mais les paroles qu'Allah prononce, subhanahu wa ta'ala, de ce point de vue-là, nous disons, Allah parle quand il veut, c'est un attribut d'action. Est-ce que cela est compris? L'attribut de la parole, d'un point de vue, est un attribut d'essence, dans le sens où Allah a toujours eu cet attribut. On ne peut pas dire qu'Allah n'a pas eu cet attribut. Mais dans le sens où Allah parle quand il veut, ces mots qu'Allah Azza wa Jal prononce comme il veut et quand il veut, de ce point de vue-là, on dit c'est un attribut d'action. En même temps que c'est un attribut d'essence. Revenons maintenant à la parole de Cheikh Al-Fawzan que maintenant vous allez comprendre. Il nous dit, la raison pour laquelle ces deux noms-là représentent le nom parfait d'Allah par lequel, s'il est invoqué, il répond, c'est parce que Al-Hayy, le nom Al-Hayy, regroupe en lui, réunit en lui tous les attributs d'essence. Et Al-Qayyum regroupe en lui tous les attributs d'action. Ainsi, lorsque tu as dit Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est comme si tu as invoqué Allah par tous ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc la parenthèse, il la fallait pour arriver à ce résultat-là. Et Al-Hayy, car celui qui a la vie parfaite, c'est Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala, a forcément tous les attributs de la vie parfaite. Et tous les attributs de la vie parfaite sont des attributs d'essence. Et celui qui a sifatul qayyumiyya, l'attribut appelé qayyumiyya, d'où l'on a connu le nom al-qayyum, eh bien, celui qui en lui-même n'a besoin de personne et de qui tout le monde a besoin, ce nom-là et cet attribut a forcément réuni tous les attributs d'action. Vous voulez des exemples ? On a tous besoin d'Allah. Tu as besoin qu'Allah te guérisse. Parmi les attributs d'Allah d'action, al-shifa, la guérison. Tu as besoin qu'Allah te donne la subsistance, al-rasq, c'est un attribut d'action. Tu as besoin qu'Allah te protège, c'est un attribut d'action. Tu as besoin qu'Allah te fasse miséricorde, c'est un attribut d'action, mais la rahma est aussi un attribut d'essence. Donc vous voyez que tous ces attributs se regroupent, se réunissent avec l'attribut du nom Al-Qayyum. Donc lorsque tu as dit Ya Hayyu Ya Qayyum, tu as invoqué Allah par tous ses attributs d'action et tous ses attributs d'essence. C'est pour cela que Ayatul Kursi, on n'est même pas encore avancé. Subhanallah. On n'est que dans Al-Hayyu Al-Qayyum. Et regardez tout ce qu'on sort de ce verset. Cher frère, tu ne dois pas négliger ce verset, la mémorisation de ce verset, l'apprentissage de ce verset, la compréhension de ce verset, l'appel à ce verset. Wallahi, si tu te contentes de ce verset, écoute bien, tu te contentes de ce verset, tad'u an-nasa ila Allah bi hadhihi al-aya. Tu appelles les gens à Allah avec ce verset. Toi qui es dans un village d'Asie, d'Afrique et d'autres encore. Tu enseignes aux gens Ayat al-Kursi. S'ils l'ont compris, ils vont délaisser toute forme de shirk par ta cause. Alors, apprends ce verset. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et on continuera sur la suite de l'aqidat al-wasitiyya, particulièrement l'explication de Ayat al-Kursi, lors de notre prochaine assise. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.